Bonjour à chacun. Et quand j'ai entendu le premier chant ce matin, je me suis dit, tiens, si j'avais dû choisir un chant pour le message, c'est celui-là qui aurait été le mieux. Vraiment, je n'aurais peut-être pas choisi, mais c'est vraiment celui-là qui allait le mieux. Et puis après, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des chants, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je retrouvais dans ce temps, et c'est juste génial, dans ce temps de louange. Vous avez certainement, sans doute, tous, tiens, on va lever la main. Qui est-ce qui a déjà visité une ville fortifiée? Ah ouais, quand même. Il y en a beaucoup, hein. Carcassonne, moi je me rappelle de Carcassonne, c'est juste, si vous avez l'occasion, c'est juste fabuleux. Parce que c'est vraiment, c'est posé comme ça au milieu de la campagne, et c'est vraiment une ville fortifiée, quoi. Et sur une ville fortifiée, il y a une muraille, toute une muraille, et puis il y a des portes, tout un nombre de portes. Et cette muraille et ces portes ont un rôle très important dans la ville fortifiée. Les portes, notamment, permettent d'entrer, de sortir, et ont un rôle important pour ce genre de ville. Dans le livre du prophète Néhémie, nous avons étudié depuis une année et demie à l'étude biblique du mardi toute la reconstruction de cette muraille et les enjeux et les symboles de chaque porte. Chaque porte qui était reconstruite et l'importance de ces portes pour le fonctionnement de la ville de Jérusalem. Et nous avons aussi vu que chacune de ces portes qui a été reconstruite, chacune de ces portes était un symbole, un élément important de notre vie de foi avec Dieu et pour Dieu. Un symbole important personnellement et un symbole important pour l'Église qui honore Dieu. Alors, j'aime bien appuyer ma prédication sur un texte, mais c'est vrai que le texte de Néhémie, il est un petit peu raide, un petit peu, c'est-à-dire il y a beaucoup de noms dedans. Alors, je vais vous montrer un petit peu le texte qui parle de ces portes. J'ai coupé des morceaux parce qu'il y a beaucoup de noms. Et c'est un peu compliqué. Mais on va le lire en partie. En rouge, en bleu, vous avez les portes. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils rebâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent, en posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. On saute un verset, verset 3, les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Je coupe, je passe au verset 4. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, puis etc., etc., etc. Ça, c'était, je l'ai laissé exprès pour montrer que... Merci. Pour montrer que beaucoup de personnes, en fait, ont travaillé et que tout le peuple a été pris dans ce travail. On vit en verset 6. Jojada, fils de Paséach, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Et toutes les fois, on a la même chose. Alors celles-là, ils l'ont couverte. C'était des portes qui avaient un espèce de petit toit dessus. Hein, et posèrent les battants, les verrous et les barres. Et ces choses sont très importantes. On l'a vu dans l'histoire des portes. Au verset 13, Hanoun et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Et on peut passer à la dia suivante. Au verset 14, Malkija répara la porte du fumier. Au verset 15, Chaloun, je coupe la suite, hein, répara la porte de la source. Au verset 26, les Nétiniens réparent la porte des eaux. Au verset 28, c'est la porte des chevaux qui est réparée. Et au verset 30, la porte de l'Orient. Et au verset 31, la porte de Mifkan. Voilà, donc c'est vrai que c'est un texte qui est un petit peu rébarbatif parce que entre les versets que j'ai mis, c'est une généalogie de noms tous plus imprononçables les uns que les autres. Si vous cherchez des prénoms pour vos enfants, il y en a plein ici. Enfin, il faut les porter. Voilà. Donc ça, c'est le texte. Vous pourrez le relire. C'est tout le chapitre 3, chapitre 2, la fin de chapitre 2, chapitre 3 de Néhémie. Alors ce matin, j'aimerais revenir sur quelques points importants au sujet de notre vie de foi à nous aujourd'hui. Sur la base de l'enseignement du livre de Néhémie au travers de ses portes de Jérusalem. Néhémie va mettre tout en œuvre pour reconstruire la muraille et les portes de Jérusalem totalement délabrées. Et juste vous montrer un petit plan de la ville. Voilà les portes en question, toutes les portes qu'on a lues. Il y en a d'autres. Il y avait 12 ou 13 portes, mais il y a 10 portes qui ont été reconstruites. On commence depuis tout en haut, à droite, et on va tourner dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et toutes les portes vont être reconstruites à la queue leu-leu. Voilà. Il restaure ainsi, Néhémie, la ville sainte, pour que le peuple puisse y retrouver le culte qui avait été abandonné. Il va redonner les bases claires pour une vie de foi, et porte par porte, reposer ou poser les bases de cette vie pour les personnes de cette époque et pour la communauté qui vivait à Jérusalem. Voilà, on peut enlever cette dia. Alors, je vais diviser ces 10 portes dans 3 groupes d'éléments qui sont tous des bases de notre foi. Dans le premier groupe d'éléments, c'est vraiment la base de la foi sur des fondements solides. Il y a 3 portes, la porte des brebis, la porte des poissons et la porte du vieux mur. Dans le deuxième temps, Néhémie, sur la base de cette foi solide, nous propose les éléments pour une foi de tous les jours. C'est la porte de la vallée, c'est la porte du fumier, c'est la porte de la fontaine et c'est la porte des eaux. Vous avouerez qu'il y a des noms qui sont curieux dedans, qui nous interroge peut-être. On verra après la signification de chacune. Et un troisième volet qui est tourné vers l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Avec 3 portes, la porte des chevaux, la porte du levant et la porte de Mifkad. Alors commençons par le commencement et nous attaquons avec la première porte. Il faut savoir que ce sont en fait des portes qui pour nous ouvre la vie. Et sur ces 3 portes, je vais très très peu m'arrêter. On va commencer par la porte des brebis. La porte des brebis pose comme base de notre foi la puissance du plan de salut, du bon berger par le sacrifice de l'agneau. On a dans la Bible passablement de passages qui nous parlent de troupeaux, qui nous parlent de bergers, de bons bergers. Et c'est cette image qu'il faut garder de cette porte. C'est probablement par cette porte de la ville de Jérusalem que beaucoup de troupeaux, peut-être d'ailleurs destinés à être vendus, je ne sais pas, entraient ou sortaient. C'était aussi une porte qui était très très près du temple, de la ville originelle de Jérusalem. Et c'est le symbole que l'on trouve dans toutes les images dans la Bible, donc de cette bergerie, de ces brebis et dans ce bon berger. C'est là la base même de notre foi, Dieu et le sacrifice, cette brebis, cet agneau immolé. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est un point essentiel de notre foi. Si on n'a pas capté ce Dieu qui, comme bon berger, va donner son Fils unique comme brebis expiatoire, on ne peut pas avancer dans la foi. Vient ensuite la porte des poissons, la deuxième dans le sens chronologique. La porte des poissons, autre point formateur de notre foi, qui nous rappelle, par les paroles du Christ, la mission ultime reçue de Dieu pour notre vie, être des témoins. Une fois qu'on a compris le message de la porte des brebis, le message de la porte des poissons coule d'office. On ne peut pas garder ce message. Cette eau bouillonnante qui est en nous, elle ne peut que sortir. Si vous secouez une bouteille de coca très fort, vous avez vu qu'on devient dur? Il y a une pression terrible dedans. Si vous ouvrez, c'est à vos risques et périls. C'est pareil. Alors, on ne peut pas contenir cette foi à l'intérieur, sinon on va exploser. Vous imaginez la pression qu'il y a dans vous, avec votre foi, si vous ne la laissez pas sortir? Mais c'est juste insoutenable. On n'a pas la même force qu'une bouteille de coca. Hein. La tête, elle va exploser, elle va sortir, là, carrément. Donc, on a dans cette deuxième vision, cette idée d'être témoin. D'être témoin, ça ne veut pas dire d'être tous missionnaires à l'autre bout du monde, mais d'être témoin, de laisser sortir de nous Cette foi, notre foi ne peut pas rester enfermée au-dedans de nous. Elle est pleine de ce levain de vie, autre image, hein. Le coca c'était plus près de nous, mais autrefois on faisait du levain qui faisait lever toute la pâte. Voilà, c'est cette image de levain capable de faire lever justement beaucoup, beaucoup des grosses quantités de pâte. Matthieu 4, 19, quand le Christ va chercher ses disciples qui sont en train de pêcher des poissons dans la mer, il leur dit « Laissez vos filets, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Des pêcheurs d'hommes. C'était curieux comme formule. Est-ce que Dieu vous a déjà demandé d'être un pêcheur d'hommes? Mais c'est ce qu'il nous demande quand il nous demande de témoigner, simplement. Faire de nous des pêcheurs d'hommes. La troisième porte dans cette préparation, cette base de foi, c'est la porte du vieux mur. La porte du vieux mur, quand vous lirez le texte chez vous, vous verrez qu'elle n'a pas été seulement refaite à zéro, elle a été reconstruite. Et ce n'est pas toutes les portes qui ont été reconstruites. Elle a été reconstruite parce qu'elle n'était pas démolie. Elle n'était pas démolie pour une simple raison. C'est qu'elle avait des fondements solides, cette porte. C'était la porte qui va nous parler du fondement sur lequel vraiment est posée notre foi, le Christ. Et c'est ce verset d'1 Corinthiens 3, 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, le Christ. Et à tout jamais dans notre vie, quand nous avons un endroit, un temps bas, un temps faible, un moment où nous sommes un petit peu fatigués, rappelons-nous que sur ce fondement du Christ, on peut toujours reconstruire. Et ce fondement, il est fort et on n'a pas besoin d'autres fondements. Une fondation solide qui a été posée par Dieu lui-même. Une foi forte, une foi par la grâce de Dieu, au moyen du sacrifice du Christ. Et ce n'est pas par hasard si cette porte du vieux mur, d'abord c'était la porte du vieux mur, donc elle était là depuis longtemps, elle est dans un angle. Elle est dans un angle de la muraille. Et c'était une porte qui était solide parce que justement elle était construite dans un angle, avec des pierres croisées, solidement posées, savamment taillées. C'est ce qui la fortifiait. Dans le psaume 118, au verset 20, nous lisons « C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les Juifs passeront par elle. Je viens pour le louer, car tu m'as exaucé. C'est toi qui m'as exaucé. La pierre rejetée, au verset 22, par ceux qui bâtissaient, est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. » Donc dans cette force, dans cette pierre angulaire, dans cette porte bâtie sur des fondements solides, on peut toujours construire et reconstruire. Voilà pour les premiers fondements, base de notre foi. Il est important de les avoir acquis et de se les réapproprier tout le temps. Les fondations, les fondements de notre vie, de notre foi, sont ainsi maintenant posés. Mais encore faut-il vivre avec. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qui vous disent « Oui, je crois en Dieu, mais... Oh, mais non, je ne vais pas à l'église. Non, c'est pas... Je n'ai pas du tout une foi qui fait que je n'ai pas besoin d'une foi pour aller à l'église. Non, non. » Et qui, en fait, se disent croire, mais n'ont derrière aucune... Ils ont juste cette conviction, oui, il existe quelque chose. Oui, je crois qu'il y a Dieu, mais ça ne va pas plus loin. Et dans leur vie, ça ne change pas plus. Ça n'est pas ça qui est le moteur de leur vie. Et ça, c'est un petit peu ce que nous font dire ces portes. Ensuite, il y a encore cette porte derrière. Alors, on va voir ce qu'elle veut dire, c'est cette porte. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec cette foi tous les jours. Et les quatre portes qui suivent sont vraiment des choses qui, jour après jour, doivent nous interroger, doivent nous rappeler que notre foi, oui, notre salut est acquis. Oui, totalement. Mais notre foi est là à se vivre, à se travailler, à s'entretenir tous les jours. La parole n'est pas avare de mode d'emploi de notre vie de foi. Et le premier exemple se trouve dans cette porte de la vallée. Cette porte a toute une histoire. C'est précisément par cette porte que Néhémie, revenu incognito à Jérusalem avec cette vision folle de reconstruire totalement cette ville, Néhémie, revenu à Jérusalem, va un jour, une nuit, incognito, sortir par cette porte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur un cheval et il va faire le tour de la muraille pour voir dans quel état est la muraille. Et il va trouver une ville totalement délabrée. C'est là qu'il va faire l'état des lieux. Dans quel état est la ville de Dieu? Dans quel état est Jérusalem? Catastrophique. Tout est de guingois. Les murailles sont toutes complètement démontées. Les portes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient. C'est des ruines. C'est des ruines. Et Néhémie se rend compte dans cette porte de l'importance du boulot qu'il y a, du travail qu'il y a devant lui pour reconstruire. Qu'est-ce que Néhémie veut nous dire? Qu'est-ce que cette porte veut nous dire? Cela nous invite, nous, pour notre vie de disciples de tous les jours, à nous remettre tous les jours en question dans notre comportement, dans notre vie de foi. Dans quel état est-ce que je suis intérieurement? C'est pas l'autre, attention, hein. C'est pas dans quel état il est. Non. Dans quel état moi je suis? Alors, c'est pas un doigt accusateur. C'est au contraire, c'est un doigt formateur de se remettre devant Dieu et de réfléchir à ce qu'il m'a donné et qu'est-ce que j'en fais tous les jours. Mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, le 27 avril, par exemple. Comment est-ce que je vis ma foi aujourd'hui, ce 27 avril? C'est facile, c'est dimanche. Bonne conscience, je suis à l'église. Super. Mais c'est pas ça que Dieu attend de nous. C'est le fond, c'est ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'en dehors, justement, de ce temps passé ce dimanche-là à l'église, il y a autre chose derrière? Comment est-ce que je vis? Alors, je l'ai déjà dit, mais il n'est pas là l'idée de remettre en question le salut reçu de Dieu. Il est reçu de Dieu, il est acquis. Donc, ce n'est pas ça qu'on remet en question. Ce qu'on remet en question, c'est nous, ce que nous en faisons. Moi, ce que j'en fais personnellement, tous les jours dans ma vie. Est-ce qu'elle est vraiment, cette vie, sur un modèle? Il y a différents modèles dans la Bible, mais sur un modèle que Dieu, que mon Seigneur à moi, puisque maintenant c'est mon Seigneur, puisqu'il a donné sa vie pour moi et que j'ai dit qu'il était mon Sauveur et mon Seigneur. Est-ce que je suis sur le modèle que mon Seigneur propose? Est-ce qu'elle va dans le sens de tous les jours analyser mon comportement, mes pensées, mes actes, à l'aune de la parole de Dieu? Et donc de me remettre en question. Est-ce que ce que je vis, ce que je fais, ma manière de parler, d'avoir des relations avec mes collègues de boulot, est-ce que ça passe devant le Christ? Encore une fois, on ne demande pas à chacun d'être un prédicateur avec sa Bible à la main pour asséner des coups de versets sur tous les gens qu'on croise. Mais quel est notre comportement? Quel est donc notre témoignage de vie tous les jours? Quel est mon témoignage? Comment est-ce que ce que j'ai reçu et qui est dans cette bouteille qui est prête à exploser, comment est-ce que je peux simplement, par mon comportement de tous les jours, le transmettre? Est-ce que c'est compatible avec le plan de Dieu pour moi? On cherche souvent le plan de Dieu pour nous, mais le plan de Dieu pour nous, c'est simplement vivre selon ce qu'il a mis en nous. Est-ce que c'est compatible? Et on a chanté, on a parlé ce matin de ce chant, « Sonde-moi », psaume 26, de « Sonde-moi, éternel, éprouve-moi, examine mon cœur et mes pensées ». Jérémie, qui a dû crier à Dieu, souvent, dans ce chapitre, on lit dans le chapitre 17 et 10 de Jérémie, « Moi, l'éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfond de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu la conduite et les effets de ses agissements. » Je relis parce que c'est un verset qu'on n'a pas l'habitude de lire. « Moi, l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Je sonde les cœurs, je scrute le tréfond de l'être de chacun de nous pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et ses agissements. » Ça, c'est aussi quelque chose qui doit nous faire réfléchir. On demande à Dieu de nous sonder, voilà ce qu'il répond quand il nous sonde. À nous de nous sonder aussi devant Dieu. Et je crois que cet exercice de se remettre devant Dieu et de faire comme Néhémie. Néhémie, il est sorti, il a pris du recul un petit peu. Il est sorti en dehors de la ville pour voir d'une façon générale. Tiens, là, il y a des gros trous. Là, c'est complètement écroulé. Là, il faudra refaire. Et il y avait même une porte qui était tellement basse que juste son cheval passait. Il a dû descendre du cheval, tellement c'était écroulé. C'était la porte du fumier. On va voir après comme c'est important. Mais cet exercice est indispensable à notre bon équilibre. Et même si cela ne peut vous choquer et ne paraît pas évident, c'est quelque chose de super bénéfique. C'est quelque chose d'important tous les jours. C'est quelque chose de positif. Il ne faut pas regarder le Dieu qui te dit « tu dois faire ça » ou « il faut faire ça ». Non, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'il me demande de faire ça? Mais c'est pour mon bien, simplement pour mon bien. Et donc, c'est quelque chose de génial à faire tous les jours. Pas seulement l'exercice lui-même, mais bien plus les conséquences qui en découlent. Et ces conséquences vont être symbolisées par cette curieuse porte du fumier. Quel nom pour une porte? Cette porte était tout en bas de la ville, de la vieille ville de Jérusalem. Vraiment tout en bas. Il y a une espèce de rue qui descend, tout en ce qu'on appelait des degrés à l'époque, hein, tout en grande marche, elle est là en bas. Là en bas, il y a la vallée, c'est une vallée ici, il y a à peu près 60 mètres de creux dessous. Hein, et c'est la vallée du Cédron ici. Voilà, là on a la piscine de Siloué et il y a une rue qui descend ici. Et donc en bas de cette rue, il y avait cette porte. Et cette porte, elle servait à plusieurs choses. C'était la porte la plus basse de la ville. Et elle servait c'était la porte des détritus. On s'en servait pour évacuer tout ce qu'il y avait besoin d'évacuer dans la ville. Alors c'était le fumier, parce qu'il y avait des animaux. Dans toutes les villes médiévales, il y avait des animaux. Hein. La ville était fermée, donc tout ce qui se vivait était à l'intérieur. Il y avait les ordures, il y avait tout ce que vous imaginez. Et elle était très bien située parce que tout près, il y avait de l'eau. Et on pouvait après laver à grande eau, j'imagine, et nettoyer le bas de cette ville. Et si vous cherchez, je ne l'ai pas mis, mais si vous cherchez vraiment une reproduction, puisqu'il y a des maquettes de Jérusalem à cette époque, vous verrez, c'est vraiment évident que c'est à cet endroit-là qu'il fallait sortir les détritus. C'était pratique, c'était une porte qui avait un usage pratique. Alors cette porte, bien sûr, où on évacuait ces déchets ménagers de toutes sortes, et tous les détritus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire qu'après cette introspection, cette remise en question, cet état des lieux de notre vie, eh bien, tout ce qui est dans notre comportement, et ça, nous, on le sait, hein, personnellement, puis si on demande à Dieu, il va bien nous le montrer, tout ce qui à l'intérieur n'est pas la gloire de Dieu, il nous demande de l'évacuer, de le faire sortir, vider tout ce qui dans notre cœur, n'est pas à la gloire de Dieu. On chante souvent ce petit chant « Jésus vient habiter en moi » ou « vient régner dans mon cœur », des petits cœurs qui disent cette chose-là. Pour que l'Esprit de Dieu puisse venir dedans de nous, il faut qu'il y ait de la place, simplement. Donc il faut faire le ménage à un moment. Et c'est ce ménage qui nous est invité à faire ici. Sortir de notre vie tout ce qui n'honore pas Dieu. Lui laisser la première place. Faire régulièrement et systématiquement de l'ordre dans notre vie intérieure. Vous savez combien on a l'habitude de se laisser grignoter d'abord, puis manger, puis, je veux dire, bouffer complètement par le temps, par notre vie. Par tout un tas de choses qu'on ne voit pas passer, qui au fur et à mesure prennent la place du temps. De notre temps avec Dieu. Un cœur encombré. Un cœur encombré par un tas de choses ne nous permettent pas de marcher avec Dieu. Encombré par un tas de choses qui ne sont pas indispensables à notre vie. Si vous faites l'inventaire dans vos placards, mesdames, je ferai le mien après, hein, vous en faites pas. Si vous faites l'inventaire dans vos placards des choses qu'on garde, j'aime bien les petits bibelots, moi. Ma femme, pas du tout. Donc il n'y a pas beaucoup à la maison. Mais si on fait l'inventaire dans nos maisons de ce qu'on a, qu'on garde, et qui ne nous sert à rien, mais on a une place folle. Hein. Moi, si je commence, j'ai dans l'idée de vider mon garage, si j'enlève dans mon garage tout ce que j'ai gardé, parce qu'un jour ça va servir, Mais depuis 30 ans, j'ai les mêmes choses, et depuis 30 ans, ça ne m'a pas servi. Donc je pense que dans les 30 ans qui viennent, ça ne me servira pas non plus. C'est comme ça qu'il faut voir peut-être aussi. Et on a comme ça plein de choses. Plein de choses. Et c'est cette idée-là, cette porte. C'est de faire l'inventaire des choses qui sont nécessaires à garder. Un cœur encombré d'une quantité de choses non indispensables et non en rapport avec Dieu ne laisse pas de place pour que son esprit puisse venir travailler en nous et vivre en nous. Fais de la place dans ton cœur. Il y a un négro spirituel qui dit exactement ça. Make more room, fais plus de place pour Dieu dans ton cœur. Fais de la place, nettoie, fais de la place. Il y a différents versets qui nous parlent de cette place. Et puis, qui considère carrément que ces choses qui nous encombrent, c'est le mal. Carrément. Il y a la partie de Dieu et la partie du mal dedans. Acte 8, 22, « Détourne-toi du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. » Ça va beaucoup plus loin. Hein. « Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père. Serre-les constamment dans ton cœur. Attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras. Ils veilleront sur toi dans ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. » Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont les chemins de la vie, les chemins vers la vie. Une invitation à faire ce nettoyage. On a parlé de chemin pour aller vers l'avant. Les deux portes qui viennent, les portes suivantes, sont aussi indispensables à la vie de tous les jours. En effet, après avoir fait le ménage dans notre cœur, après avoir jeté tout ce qui n'était pas nécessaire, dans nos placards, il y a de la place maintenant. Dans notre cœur, il y a aussi de la place. Et c'est là qu'intervient la porte suivante. Avant de laisser à nouveau remplir notre cœur de tout un tas de choses superflues, il y a cette porte de la fontaine qui veut déverser en nous la louange de Dieu. Et j'aime bien cette image de cette fontaine. Moi, j'ai visité une fois les fontaines de Vaucluse. C'est un très très beau coin, et ça bouillonne, ça sort de la terre, là, ça bouillonne. C'est pas une fontaine comme on voit qui coule d'un tuyau comme ça, mais ça bouillonne, et ça sort sans arrêt, à gros flot, pas un petit truc, hein, à gros flot. Et j'aime bien cette image de ce Dieu qui veut nous remplir de cette louange. Il y a la place pour lui maintenant, il vient avec son esprit, il a de la place pour venir, et ce qui en sort, c'est cette louange. C'est la porte de la fontaine. Remplie de cette eau de la vie qui se déverse en nous, nous pouvons le louer jour après jour. La louange vient de ce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et s'il n'y a pas de la place pour l'Esprit de Dieu en nous, il n'y aura pas de louange. Il n'y aura pas non plus de place pour Dieu. Suit une deuxième porte, qui est la porte des eaux. Elles arrivent bien de quelque part, ces eaux. J'ai toujours été frappé de dire qu'il y a une source. Quand on va aux sources de la London, c'est tout près, vous êtes tous allés, en tout cas allez-y si vous n'êtes pas allés. Mais ça sort d'un coup comme ça, puis ça fait une rivière. Alors des fois vous allez en été, il y a très peu d'eau, mais quand vous allez en hiver, ça débite drôlement. Hein. Ça sort de n'importe où. Ben non, ça sort pas de n'importe où, ça vient bien de quelque part. Il y a quelque part de l'eau derrière. Eh bien cette porte des eaux, c'est la source. Nous rappelle que cette eau de la vie, ces clés de la vie, ces préceptes viennent pour nous d'une source unique que le Père nous a laissée, sa parole, la parole de Dieu. La source de toutes ces bénédictions, nous les avons, nous pouvons les puiser comme on puisait dans une source, dans la parole de Dieu. Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Galates 5, 25. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. C'est une vraie parole de la Palisse, ça. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, mais laissons-le aussi diriger notre conduite. Toute l'importance de laisser la place pour l'Esprit de Dieu. Se remettre en question, faire de l'ordre, laisser son Esprit se déverser en nous pour le louer, en puisant chaque jour les jalons de notre vie dans sa parole. C'est le plan parfait que Dieu a pour nous. Mais il nous reste encore trois portes. Et ces trois portes, qui vont maintenant arriver devant nous, qui sommes équipés solidement, nettoyés, pleins d'énergie, nous parlent de l'avenir avec Dieu. Mais l'avenir avec Dieu, ce n'est pas seulement qu'est-ce que je fais demain, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse demain? Quel est son plan pour moi? Est-ce que je m'en remets totalement à lui? Et ces portes, ça sera très bref, mais nous rappellent trois choses importantes dans le plan de Dieu. Il nous a mis en place. La porte des chevaux nous invite à nous mettre en route pour porter, auprès comme en loin, la bonne nouvelle de l'Évangile. Avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on a reçu, Dieu va mettre devant nous des moments, des situations, des endroits, une demande, un appel qui va faire que, à un moment ou à l'autre, on ne pourra pas rester insensible à cet appel et qu'on doit le suivre. Donc, obéissons à ce que Dieu nous demande. Il y a ensuite la porte du levant. Et cette porte du levant, c'est la porte de l'Est. Elle nous invite à veiller dans l'attente du retour du Christ. Et c'est vrai qu'on a à veiller. On a à être prêt. Parce qu'au-delà de tout ce que Dieu nous demande, on a nous d'abord à être prêts, personnellement. C'est par là que, historiquement et bibliquement, le Christ est censé rentrer à Jérusalem, revenir. C'est pour ça qu'elle a ce symbole du retour. Et c'est la porte qui est la plus près du retour du Christ. Cette porte du levant, c'est par exemple ce que nous disons dans les textes qui parlent de la scène, annoncer la parole du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est cette attente, c'est cette aspiration à ce qu'il revienne bientôt. Et puis il reste la dernière porte mystérieuse, cette porte de Mifkad, qui pose en quelque sorte, pour moi, la cerise sur le gâteau. Elle nous invite simplement à prendre du temps pour la rencontre avec Dieu. Et elle englobe un petit peu tout le reste. C'est un appel à un contrat final avec Dieu. Je suis bien avec toi, j'ai envie d'être avec toi tout le temps. Frères et sœurs, la vie chrétienne, la vie de foi, n'est pas, par définition, quelque chose de facile. On le sait. Mais elle reste par contre quelque chose de simple. Si on suit les commandements de Dieu, sans s'égarer. Ce n'est pas la peine d'être théologien, ou d'être un éminent savant, ou un éminent professeur, pour vivre une vie de foi selon l'Évangile. Les commandements de Dieu sont simplement à suivre, tels qu'on les trouve dans sa parole. Ils ne sont pas signes d'écrasement, mais sa parole est libératrice, elle est créatrice de vie, elle est créatrice de joie, et malgré les difficultés, elle est créatrice de la joie de vivre sur des bases solides, en témoin, aujourd'hui, avec un plan formidable pour demain, et pour plus, si affinité avec Dieu, pour l'éternité. C'est en quelque sorte ce que nous rappellent ces portes. Et si vous souhaitez aller plus loin avec ces portes, moi je peux vous passer des explications plus longues dessus. Si vous êtes intéressé, je peux vous les passer par mail, par exemple. Ça, vous savez qu'à me les demander simplement. C'est intéressant de les reprendre parce qu'elles vraiment elles nous motivent. Et puis, nous sommes à chacun ici, à des moments différents de notre vie. Certains connaissent Dieu depuis très longtemps. Certains connaissent Dieu, certains sont baptisés, certains ne sont pas baptisés, certains lui ont donné leur vie, certains pas encore. Mais qui que nous soyons, il faut savoir que Dieu s'intéresse à nous et que Dieu ne nous laissera pas de côté et qu'il nous aidera sur notre chemin là où on en est. Et je voudrais vous terminer en vous laissant ce verset, après quoi on a peut-être un tout petit temps de prière pour ceux qui le veulent. Ce verset qui nous invite à nous reposer sur Dieu, en confiance totale de ce qu'il veut pour nous. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, Paul dit, Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, en vous, c'est personnel, hein, son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à un tout petit moment de silence, et si une ou deux personnes veulent prier, qu'elles le fassent tout à fait librement. Père, par moments, tu nous invites à nous arrêter, à nous poser pour un peu faire le point et regarder où nous en sommes sur le chemin avec toi. Et moi, je voudrais te remercier pour cela. Te remercier parce que dans ta parole, tu nous donnes des pistes, tu nous donnes des schémas, tu nous donnes des symboles qui nous rappellent comment tu veux que nous marchions avec toi. Et merci de nous permettre ces temps d'arrêt, de repos, de ressourcement. Merci pour cette parole qui nous parle jour après jour. Merci parce que même si ces textes datent de presque 25 siècles, ils sont encore tellement vivants aujourd'hui. Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle. Merci parce que tu connais chacun de nous, tu sais chacun où nous en sommes et tu veux nous parler à chacun, personnellement. Et je te prie que ces paroles, que ces textes de ce matin puissent être des ferments, puissent être du levain qui, dans nos vies, apporte quelque chose, fasse lever de la pâte, puisse servir à ton œuvre seule. Seigneur, garde-nous sur le chemin que tu nous as préparé. Aide-nous à le comprendre, à le voir et à le vivre jour après jour avec toi. Merci pour ta miséricorde, merci parce que tu nous tends la main jour après jour et tu nous aides sur ton chemin. Seigneur, comment y marcherions-nous sans toi? Nous voulons, Seigneur, te louer et t'adorer et te rendre gloire. Amen.
Bonjour, je partage avec vous les annonces du programme de la semaine. Demain à 14h, Femme Club chez Rebecca. Non, ici. Donc Femme Club, ici à l'église. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oui. D'accord, donc quelque chose de très pratique, d'accessible à toutes. Non, je n'étais pas au courant. Sinon, les autres activités, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles nous invitent toutes à aller vers les autres chrétiens de notre région. Lundi soir, la chorale en commun pour préparer le culte de dimanche prochain. Ensuite, jeudi 1er mai, le concert Impact à 20h, qui aura lieu donc à l'espace Pertant à Gex. Il y a encore besoin de bénévoles pour aider à l'organisation. François Pillou ne va pas mieux dans sa santé. C'est pas simple pour lui. Il va très certainement devoir se faire opérer au niveau des vertèbres. Donc, il ne peut plus porter, il peut plus aider concrètement pour tout ce qui est préparation physique, etc. Donc il y a vraiment besoin encore de bénévoles. Je vous invite à passer soit par moi, soit par Nicolas. Mais il y a vraiment besoin de personnes pour ce concert qui est un moment important aussi pour l'ensemble des chrétiens, puis aussi pour la région. C'est aussi un moment de témoignage. Pensons aussi pour ce concert au niveau de la prière. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est important de le préparer dans la prière, parce que c'est aussi un combat et c'est important que chacun se mobilise par rapport à cela. Samedi à 14h, il y a la préparation pour le culte en commun, donc l'installation de la salle Gaston Laverrière, donc la salle de la commune de Prévesin. Là aussi, il y aura pas mal de travail parce qu'il y a la scène à mettre en place, toutes les chaises à mettre en place, et puis on va aussi, au niveau de notre église, prendre en charge la sono, parce que là, c'est pareil, François étant HS, comme on dit, il ne pourra évidemment pas faire la sono. Donc, pas mal de boulot, mobilisons-nous. Peut-être contactez-moi si vous pensez venir, comme ça je centraliserai un petit peu. Et si toutefois il n'y a pas assez de monde, je me permettrai de faire une petite relance. Samedi soir, groupe de jeunes. Dimanche, le culte. Donc le dimanche, c'est plus qu'un culte. C'est déjà le culte en commun à 10h le matin. À 10h, hein, pas à 10h30. Attention aussi, parce qu'ici, il n'y aura pas de culte. Donc on se retrouve tous à 10h à la salle de la commune. Ensuite, après le culte, il y a un repas canadien. Donc on est tous invités à partager ce moment. C'est important aussi de partager ce moment avec les autres chrétiens de la région, des autres églises évangéliques. Donc réservez ce moment, préparez aussi quelque chose à apporter pour partager. Ensuite, l'après-midi, il y aura un temps avec portes ouvertes. Donc c'est Eric Baumann qui va nous partager un sujet. La Bible, un livre dangereux. Est-ce que la Bible est vraiment un livre dangereux? Mais il semble que dans certaines régions du monde, ce soit perçu comme ça. Et c'est en tout cas le thème qui va nous aborder, nous partager. Je crois que j'ai fini avec les annonces pour le programme de la semaine. Il me semble que je n'ai rien oublié. Sinon, juste en avance, le samedi 17, c'est un petit peu plus loin, il y a Louise fait un concert, Louise Sbinden, donc la sœur de Johanna, fait un concert pour présenter son nouveau CD. L'affiche est au fond. Si vous voulez des billets, vous pouvez vous adresser à Johanna qui s'occupe de faire le lien pour les vendre. Sinon, quelques nouvelles de Mike. Mike va plutôt bien. Il a un voisin, disons, un co-détenu dans sa cellule, donc ils sont deux. La relation, les contacts avec le voisin se passent plutôt bien. Mais c'est important aussi de le soutenir toujours dans la prière, de penser à lui. Il pense peut-être sortir fin mai, donc encore un bon mois. Par contre, le dimanche, il peut participer à un culte, donc il est peut-être au culte en ce moment. Merci de penser à lui, de prier pour lui, de lui écrire encore, si vous avez toujours son adresse, sinon demandez-la à Jean-Paul et Lydie. C'est important aussi pour lui qu'il sente qu'il reçoive des lettres, qu'il reçoive du courrier, qu'il voit qu'il n'est pas tout seul, qu'on pense à lui et qu'on prie pour lui aussi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres informations à partager, je vous invite à vous lever. Je vais vous lire encore deux versets. Oui, Nicolas, oui.
Juste très courtement. Bonjour pour ceux que j'ai pas vus. Je voulais juste revenir sur le concert Impact. Il y a toute une histoire derrière tout ça. Et un jour, j'aurai peut-être possibilité de vous raconter tous les détails. Mais en gros, faut savoir une chose. Cette tournée Impact n'était pas du tout prévue de venir à Gex. Il devait s'arrêter à Lyon. Et il faut savoir que dans le pays de Gex, nous avons des contacts, peut-être moi un peu plus personnellement, avec des gens de GEM en mission qui viennent prier pour le pays de Gex. On ne le sait peut-être pas. Ils se réunissent, ils montent sur la montagne, ils prient. C'est des gens qui ne sont pas forcément dans nos églises, mais qui ont reçu vraiment cet appel pour prier pour ce pays de Gex. Si vous voulez, collatéralement, il y a une personne qui nous a contactés, qui s'occupait de la tournée d'Impact et qui a dit « Je sais que je sens qu'il y a un besoin dans le pays de Gex et nous, à Lyon, ça ne nous va pas. Il y a quelque chose qui ne nous va pas. Est-ce que ça ne vous dirait pas qu'on essaie de faire ça à Gex ?» Et quand on a reçu ça pour Virage, on a trouvé la salle, il y a eu des bénédictions. Il faut savoir qu'on a prié, bien sûr. Il y a des choses qui se passent au niveau de nos familles propres, de la famille de François, ma famille et moi. Il y a des choses qui se passent, Dieu répond, Dieu bénit, Dieu ouvre des portes, on parle de portes. Il y a des choses qui se passent, autres que la santé physique, bien sûr que François est très atteint en ce moment, mais Dieu va répondre à ça, il va faire ce qu'il faut. Mais la tournée Impact, c'est pas venu comme ça. Alors moi, je voulais juste passer le message. Il ne s'agit pas de venir à un concert pour faire plaisir à Nicolas, faire plaisir aux responsables de l'Église, faire plaisir à Virage. C'est pas ça le but. La vraie question, c'est est-ce que le pays de Gex a vraiment peut-être besoin d'un temps d'exhortation, de louange, de prière? C'est ça la vraie question. Et on a peut-être la possibilité à travers ces gens, alors d'accord, c'est de la musique, de pouvoir passer un moment comme ça. La tournée a débuté, c'était un peu difficile. J'ai eu des nouvelles hier soir, c'était un peu difficile dans les premières villes parce qu'il fallait que tout se mette en place et tout. Mais il y a vraiment une onction là-dessus. Et posons-nous la vraie question. Est-ce qu'on a envie de porter SpaceX? Est-ce qu'on va oser le faire? On comprend peut-être pas tout, mais c'est ça la vraie question. Alors surtout, de grâce, ne vous forcez pas à venir pour faire plaisir à qui que ce soit. Posez-vous déjà la question. Et si vous recevez de Dieu de dire, ben oui, pourquoi pas, c'est ça le plus important. Je vous assure, et moi je fais la gueule à personne, hein, vous inquiétez pas. Je suis tout content de vous voir, mais je sais pas ce qui va se passer avec ce concert. Nous, on avait renoncé de faire des choses dans le PJX à Virage. Et moi, très violemment, parce que les chrétiens répondaient pas, parce que j'avais pas le bon raisonnement. J'en voulais à mes frères parce qu'ils n'aient pas, parce que j'ai compris ça. C'est pas du tout ça la question. Et on avait toujours cette chose qui revenait dans Virage. Il faut que vous fassiez, il faut que si un jour on vous donne la possibilité, où Dieu répondra, vous devez encore persévérer là-dedans. Et voilà, la persévérance, elle est là avec ce concert, dans une salle neutre, pas dans une église. Et je ne sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien, on marche complètement par la foi, et moi je crois que c'est le plus important. Alors posons-nous la vraie question, est-ce qu'on a envie de débloquer cette chape qu'il y a sur SpaceX? Je ne sais pas. Peut-être ça ne va pas marcher, peut-être ce n'est pas le moment, je ne sais pas, on verra. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci.
Et si vous n'avez pas encore acheté votre billet, sachez qu'il y a toujours sur notre site internet le lien pour le commander en ligne. Une autre petite annonce toute pratique, une paire de lunettes a été trouvée hier après le mariage, donc si quelqu'un la reconnaît, elle est ici. Sinon, je vous lis encore deux versets dans Éphésiens 3. Les deux derniers versets, à celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui sur la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.